Très bien, donc nous étions partis la dernière fois du jardin des Oliviers. Nous avions suivi le Seigneur Jésus arrêté après avoir été livré par Judas. Donc nous sommes au chapitre 14, à la fin du chapitre 14. Nous sommes grosso modo à page 34 de ce petit livret vert. Le Christ a été arrêté et deux principaux chefs d'accusation lui sont reprochés. Tout d'abord le fait de s'être présenté comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu, et d'avoir eu une attitude qui allait à l'encontre des idées que la plupart des Juifs, et notamment les pharisiens, se faisaient du Messie, d'avoir été un Messie qui va vers les publicains, vers les pécheurs, qui est un Messie de douceur, qui n'hésite pas en revanche à avoir des paroles fortes et exigeantes contre l'hypocrisie et l'orgueil des pharisiens et des scribes. Donc ça, c'est le premier chef d'accusation, finalement le fait de s'être présenté comme le Messie. Et le deuxième chef d'accusation, qui va être le premier à sortir, c'est son attitude à l'égard du temple. Donc même si le Christ a toujours été respectueux du temple, même s'il a prié au temple et fait prier, eh bien, il a chassé les marchands du temple, ce qui a été assez mal vu, sans doute, de l'aristocratie sadducéenne. Donc les sadducéens, donc, ce sont des prêtres qui s'occupent du service du temple et qui ont sans doute été assez énervé de ce trouble mis dans la liturgie du temple, et d'autant que le Christ, voilà, a eu des paroles fortes sur le fait que le temple était devenu un repère de brigands. Donc ce sont les deux principaux chefs d'accusation que l'on va voir dans ce premier procès de Jésus. Alors il faut bien comprendre que ce sont des accusations religieuses, ça vous saute aux yeux, je pense, le fait de se revendiquer comme le Messie, le fait de se présenter comme celui qui vient purifier le temple. Donc ce sont, ça concerne la religion, mais ça concerne aussi la politique, parce que le temple, c'est le centre de la vie du peuple d'Israël, c'est là où convergent tous les pèlerins, c'est là où bat le cœur d'Israël en quelque sorte. Donc voilà, avoir une attitude par rapport au temple, c'est religieux, mais c'est aussi politique. Et de même, se présenter comme le Messie, le Messie était attendu comme le roi d'Israël, comme celui qui prendrait la tête du peuple. Donc voilà, il faut bien comprendre que ces deux chefs d'accusation qui sont portés contre le Christ, ils sont à la fois religieux et ils sont à la fois politiques. Et comme on disait, le temple, ça concerne beaucoup les sadducéens, donc ceux qui sont chargés de la liturgie du temple, donc les familles d'aristocratie sacerdotale, donc ceux qui sont prêtres de père en fils, et le fait de se revendiquer comme le Messie, ça touche aussi beaucoup les pharisiens, qui étaient dans une grande attente du Messie, mais pas forcément un Messie comme le Christ se présente. Donc vous voyez, en quelque sorte, le Christ cristallise toutes les oppositions et tous les antagonismes contre lui à travers ces deux accusations, et les pharisiens, et les sadducéens, et les religieux, et les politiques. Donc, c'est ce qu'on va retrouver donc, voilà, dans cette première soirée dont on avait déjà parlé. Donc on est passé de Gethsémani à la maison d'Anne, donc, qui est le beau-père de Caïphe, qui est le grand prêtre en exercice. Et Anne est lui un ancien grand prêtre, mais qui a gardé un certain rayonnement, une certaine autorité. C'est pourquoi saint Marc nous parle des grands prêtres au pluriel, alors que normalement un grand prêtre, il n'y en a qu'un. Mais là, en l'occurrence, voilà, il y avait une espèce de pouvoir à deux têtes, donc entre Anne et Caïphe. Et si on suit saint Jean, donc on n'est pas dans saint Marc, donc c'est une petite excursion du côté de saint Jean, effectivement, donc saint Jean dit que la première entrevue le soir du jeudi saint a lieu plutôt devant Anne, et que c'est le lendemain matin qu'il y aura un procès un peu plus en bonne et due forme devant Caïphe, donc qui est, comme on vient de dire, le grand prêtre, en fonction cette année-là. Mais, comme on l'avait dit il y a 15 jours, déjà il y a cette entrevue, un peu plus qu'une entrevue, qui est un interrogatoire plutôt, le soir du jeudi saint, déjà pour collecter un certain nombre de preuves et de témoignages qui viendront alimenter le véritable procès du lendemain matin, puisque normalement on ne tient pas non plus un vrai procès en pleine nuit, donc voilà, il faut quand même respecter quelques formes. Et je vous avais dit donc que les premières interrogations tournaient autour du temple, et c'était assez révélateur de voir que finalement le grand prêtre n'était pas tellement intéressé de prime abord pour savoir qui était vraiment ce Jésus de Nazareth qui tenait devant lui. Et donc on avait dit d'une certaine manière que le monde finalement se sépare en deux entre ceux qui sont intéressés par la figure du Christ et qui vont chercher à savoir qui est-ce, et puis ceux qui s'en désintéressent sans doute parce qu'ils sont trop préoccupés déjà d'eux-mêmes ou de leurs prérogatives ou de leur position, comme c'est le cas du grand prêtre. Donc on reprend au verset 60, puisqu'on avait déjà, il me semble, commenté donc, le passage sur le temple. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, c'est le prophète, et les gardes lui donnèrent des coups. Comme on l'avait dit, il y a 15 jours, on est vraiment dans un moment de confrontation historique, puisque le grand prêtre de l'ancienne loi, eh bien, s'efface au grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Jésus, au départ, garde le silence, mais finalement, on en vient, donc, comme je le disais, à la question de son identité, finalement celle qui décide de tout. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Alors, la traduction française rajoute « Dieu ». En réalité, il y a juste marqué le Fils du béni, voilà, parce que les Juifs, par respect, ne prononcent pas normalement le nom de Dieu et donc trouvent des périphrases. Donc, au lieu de dire Dieu, on dit le béni, au lieu de dire le royaume de Dieu, on dit le royaume des cieux, voilà, par respect pour le nom de Dieu. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas le nom de Dieu dans l'original, grec montre qu'on est vraiment sans doute tout proche de la question telle qu'elle est sortie de la bouche du grand prêtre. Elle n'a pas été retouchée pour être mieux comprise par des chrétiens grecs, etc., qui auraient pu ne pas trop savoir ce que ça veut dire « fils du béni ». Et donc Saint Marc, sans doute s'adressant à des chrétiens d'origine juive, n'a pas besoin d'adapter, donc on a sans doute cette question telle qu'elle est sortie des lèvres du grand prêtre, donc le Christ, le Fils du béni. Donc il y a, en quelque sorte, deux titres. Christ, donc le Messie, celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction, celui qui est envoyé de Dieu. C'est le Christ, c'est celui qui était promis par les prophètes, celui qui viendrait sauver le peuple en prenant la tête du peuple, en rétablissant un culte spirituel dans le temple, donc celui qui viendrait vraiment redonner à Israël la pureté de sa religion et de son rapport avec Dieu. Et puis, fils du béni, donc fils de Dieu, alors qui est un titre qui, dans la bouche du grand prêtre, sans doute, est plus ou moins synonyme de Messie. C'est-à-dire qu'on considérait que le Messie, d'une certaine manière, était fils de Dieu, alors non pas tel que nous on l'entend en tant que chrétien, c'est-à-dire au sein de la Trinité, mais en ce sens qu'il était adopté, on va dire, par Dieu, qu'il était tout spécialement proche de Dieu. Voilà. Donc, fils de Dieu dans un sens un peu imagé. Et le Christ, justement, lui, va prendre fils de Dieu au sens le plus fort du terme, puisqu'il dit que le fils de l'homme, donc lui-même, siège à la droite du Tout-Puissant et vient parmi les nuées du ciel, alors que les nuées du ciel, ce sont justement un attribut divin. La nuée, c'est une espèce de nuage mystérieux qui entoure Dieu. Donc, à ce moment décisif de sa vie, le Christ sait très bien que s'il se présente comme de rang divin, c'est aux yeux du grand prêtre un blasphème qui mérite la mort. À ce moment de sa vie, le Christ ne dit pas « Oui, je suis le Messie, mais attention, il ne faut pas prendre fils de Dieu à la lettre, je ne suis qu'un homme envoyé par Dieu. » Non. Le Christ, en toute connaissance de cause, sachant que ça le mène à la mort, réaffirme, ce qu'il avait déjà affirmé à d'autres moments de l'Évangile, qu'il est de rang divin. Alors, c'est sûr que je ne fais pas non plus un cours sur la Sainte Trinité, allez me chercher un trèfle, je vais vous expliquer. Alors, c'est pas le lieu ni le moment, mais voilà, il faut comprendre que la réponse du Christ est très forte. Hein. Je le suis. C'est pas, vous voyez, quand Ponce Pilate lui dira « Es-tu le roi des Juifs ?» dans quelques lignes, Jésus lui répond « Tu le dis. » Une distance par rapport à ce que dit Ponce Pilate. Là, il n'y a pas de distance. « Je le suis. » Et comme dit Benoît XVI, on peut entendre dans ce « Je le suis » un écho du nom de Dieu tel qu'il a été révélé à Moïse au buisson ardent. Vous trouvez ça en Exode 3.14, c'est comme Pi, mais c'est facile de s'en souvenir. Et où Moïse dit, mais je veux bien aller voir le peuple d'Israël pour leur dire qu'ils vont sortir de l'esclavage, mais ils vont me demander au nom de qui, par qui je suis envoyé. Oui, c'est un peu ce que je disais aux élèves de CE hier, c'est comme si vous êtes en prison et qu'un gars vient vous dire, j'ai un bon plan pour m'évader, là j'ai un pote qui va nous faire sortir. On lui dit, non, mais c'est qui ton pote? Parce que quand même, on ne va pas s'évader de la prison comme ça, sans savoir qui nous conduit parmi les égouts jusqu'à la liberté. Ben là, c'est un peu pareil. Le peuple, il va dire, mais qui t'a parlé? Et donc, Dieu donne son nom, je suis. Et c'est vrai que dans ce je suis, eh bien, résonne ce je le suis aussi de Jésus. Et surtout que on pourrait dire, oui, bon, je le suis, bon. Mais c'est confirmé, évidemment, par la suite, puisque, comme vous disiez, la suite, elle est vraiment très forte, notamment dans cette mention de siéger à la droite du Tout-Puissant et de venir parmi les nuées du ciel, ce qui est une revendication très claire. Et d'ailleurs, le grand prêtre ne va pas s'y tromper, puisqu'il dit tout de suite qu'il y a blasphème. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce passage.
C'est aussi ce qu'a dit Étienne, non? Quand il a vu au moment où il est lapidé, je vois les yeux ouverts
et le fils de l'homme
à la droite.
C'est bon. Je ne sais pas, les apôtres sous le bras, mais. Donc blasphème, donc condamnation à mort, et le grand prêtre déchire ses vêtements, ce qui effectivement était prescrit en fait. C'est pas juste qu'il est très énervé, c'est vraiment c'est un geste qui était juridiquement et légalement prescrit. On trouve ça dans la Mishnah, qui est un recueil de lois juives. Et donc, il y a une Mishnah qui s'appelle Sanhédrin, parce que ça traite des affaires du Sanhédrin. Et donc, le Sanhédrin, c'est le grand conseil qui commande un petit peu, et qui juge et qui conduit les affaires d'Israël. Et donc, voilà, quand il y a un blasphème qui est prononcé en présence du Sanhédrin, il est prescrit qu'on déchire ses vêtements, voilà, en signe de protestation, de scandale devant le blasphème qui est prononcé. Suit ensuite une scène qui vient pour nous, pour notre cœur de chrétien, et particulièrement triste, et j'espère que, ben, qu'on nous serre le cœur. Le Christ qui est tout livré finalement à la méchanceté des hommes. Quoi. Et là, c'est vraiment une espèce de rencontre vraiment des plus grands opposés. C'est-à-dire l'innocence de Jésus là, qui ne se défend pas, qui se laisse faire. Et en face, ben, cette espèce de méchanceté sordide de ceux qui sont passés à côté du précipice, de ceux qui ont vu peut-être un moment voilà, leur vie basculer le jour des rameaux, où ils sont peut-être dit que, voilà, que le Christ allait prendre leur place, que les apôtres prendraient la place de l'aristocratie du temple, que les disciples prendraient la place des gardes. Enfin, ils ont vu sans doute peut-être voilà, leur vie, leur position, leur assise vaciller. Et puis, voilà, c'est... Quand on s'est senti comme ça un peu vacillé sur le trône et puis qu'on y est réinstallé, mais une espèce de pulsion assez, assez mauvaise. Quoi. On a cru qu'on allait perdre le combat, puis finalement, celui qui nous menaçait est à terre, et alors là, on lui fait payer la peur finalement qu'il nous a fait subir. Quoi. Donc cette idée très, voilà, très terrible de ces gardes qui finalement, voyant le Christ qu'ils craignaient sans doute quelque temps auparavant, entouré des foules, ayant voilà, l'adhésion d'un grand nombre, ils le voient à leur merci, donc ils le frappent, puis donc ils le couvrent d'un voile. Et là, il y a une espèce d'ironie dans l'ironie, parce que les gardes disent à Jésus, fais le prophète. Donc, sous-entendu, voilà, de toute façon, tu n'es pas un prophète, puisque si tu étais un prophète de Dieu, bah, tu ne serais pas comme ça livré entre nos mains. Mais donc, voilà, on te dénie cette... fonction de prophète, on se moque de cette mission de prophète, et puis donc on se couvre d'un voile pour que tu nous dises qui t'a frappé. Mais en même temps, le Christ avait annoncé justement, il avait prophétisé qu'il serait arrêté et frappé, etc. Donc il y a une espèce d'ironie dans l'ironie, parce que les gardes pensent être ironiques en traitant le Christ de prophète, mais en fait Saint-Marc nous montre que Jésus est vraiment prophète, puisque cette scène-là, il l'avait déjà annoncé. Donc il y a une espèce de... un peu comme des poupées russes, quoi. C'est-à-dire que ouais, les gars sont un peu pris à leur propre jeu, en quelque sorte. Ils pensent ridiculiser le Christ dans sa mission de prophète, et en fait, ils accomplissent la prophétie de Jésus. Il faut la retrouver. Donc, voilà, au verset... 33 du chapitre 10, hein, page 25, en bas de la première colonne de gauche. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et trois jours après, il ressuscitera. Et puis,
ouais. Je voulais nous dire, quand on dit que les Juifs ont tué les prophètes avant.
Ben, ça veut dire que, notamment Jérémie, qui était un prophète donc, du temps de la chute de Jérusalem, donc au 6e siècle, avait annoncé que... si le peuple ne se convertissait pas, les envahisseurs viendraient, prendraient Jérusalem, ruineraient la ville, saccageraient le temple, etc. Et non seulement il n'a pas été écouté, mais il a été victime d'un certain nombre de complots, il a été mis en prison, on a voulu le tuer, etc. Et donc il y a un certain nombre d'autres prophètes qui, dans l'Ancien Testament, ont subi ce sort-là. Quoi. Ouais. Bah, c'est le prophète au sens, c'est pour ça qu'ils lui ont mis un voile sur la tête, c'est-à-dire on te cache les yeux, et maintenant si t'es vraiment un prophète, tu dois savoir d'où va venir le coup, qui va te frapper, etc. C'est en ce sens-là, c'est le prophète. Mais c'est vrai que Jésus, à une autre reprise, avait dit justement que voilà, les juifs de son temps étaient très ardents pour honorer les prophètes défunts, mais ils se souvenaient pas toujours que c'était leurs propres aïeux qui avaient tué ces prophètes, et que finalement Ils se pensaient meilleurs que leurs aïeux en disant bon, mais si nous, un grand prophète vient en notre temps, on l'accueillera bien, alors qu'en fait. Alors, il y a des prophètes qui ont été mieux accueillis, mais c'est vrai que, par exemple, on peut penser à Élie, qui n'a pas forcément écrit un livre de prophétie, donc qui n'est pas dans les livres des prophètes, mais qui est dans le livre des rois, donc qui raconte l'histoire des rois d'Israël. Mais Élie, qui est quand même le prototype, on va dire, du prophète, et qui a été lui aussi énormément persécuté, notamment par Jézabel, et qui a dû fuir, qui s'est retrouvé un moment sous son genêt, là, il n'en pouvait plus, il voulait mourir. Donc voilà, je pense que si on relit l'Ancien Testament, je pense qu'il y a un certain nombre de grandes figures prophétiques. On peut penser aussi à Saint Jean-Baptiste, d'une certaine manière, qui est un prophète au sens où il parle au nom de Dieu. Alors lui, il est plus qu'un prophète, comme dit Jésus, parce que non seulement il annonce le Messie, mais il le désigne du doigt, donc il est contemporain de ce qu'il prophétise. Mais qui lui aussi est mis à mort par Hérode.
Je continue à tuer.
Oui. Et le Christ, d'ailleurs, c'était déjà mis dans cette lignée des prophètes, en disant Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits, et tu n'as pas voulu. Jésus se met effectivement dans cette lignée des différents prophètes de l'Ancien Testament. Alors tous n'ont pas subi un sort funeste, hein, mais un certain nombre. Mais... Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage, et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors, alors un coq chanta. La servante ayant vu Pierre se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le nia. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, sûrement tu es l'un d'entre eux d'ailleurs, tu es Galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. Donc là, le temps passe, c'est bien, parce que la scène va se terminer avec le chant du coq, donc ça veut dire qu'on est déjà au petit matin du vendredi. Donc il faut imaginer, voilà, peut-être les va-et-vient de Pierre, qui est là dans la cour, qui se chauffe, qui s'informe de ce qui se passe à l'intérieur, et puis, bon, c'est pas dans l'évangile, mais je trouve que c'est assez évocateur dans le film de Mel Gibson sur la Passion du Christ, on voit combien Pierre aussi est effrayé de voir le Christ battu, molesté, et effectivement, il y a une espèce de transfert, quoi. Il se dit, bon, si je dis que je suis un disciple de cet homme, eh bien, je vais moi aussi subir le même sort. Donc, voilà, il a déjà vu le Christ arrêté, il a déjà vu voilà, les gens armés mettre la main sur lui, c'est déjà un peu impressionnant. Il a essayé de défendre le Christ à coups d'épée, le Christ lui a dit de ranger son épée, donc, de façon déstabilisée, il a quand même continué à suivre Jésus un peu de loin, et puis là, c'est vrai que, voilà, entendant la condamnation à mort, voyant, comme je disais tout à l'heure, voilà, le Christ totalement à la merci de cette méchanceté humaine assez sordide, là, il y a quand même, voilà, il y a une espèce de vertige, sans doute, de Saint-Pierre, qui n'imaginait pas que ce maître, si puissant, si bon, qui avait fait tant de miracles, qui avait attirer tant de foules pourrait un jour être condamné à mort et se retrouver à deux doigts d'être exécuté. Donc finalement, ce vertige explique en partie le trouble évidemment dans lequel il se tient. Enfin, comme disait le père Abbé de Faucombeau aussi avec une belle exégèse, quand Saint-Pierre aussi dit « Je ne connais pas cet homme », il a raison de dire ça. évidemment, Nestor le connaît en tant que maître, et quand il dit « je ne connais pas cet homme », il le renie, mais dans un autre sens, il a raison, parce qu'il ne connaît pas encore vraiment qui est Jésus. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas que Jésus accomplit les prophéties disant que le Messie devait souffrir et donner sa vie pour son peuple, il ne comprend pas que Jésus, étant de rang divin, comme il l'a montré à Transfiguration, puis dans un certain nombre d'autres moments de l'Évangile, eh bien, est plus fort que tous ces événements qui apparemment s'abattent sur lui, hein, tout ça, il n'a pas encore compris. Et donc, en ce sens, bien sûr qu'il a tort, et c'est un terrible péché de reniement de dire qu'il ne le connaît pas, mais en même temps, il y a une part de vrai, parce qu'il faudra attendre la lumière de Pâques, la résurrection, la rencontre avec le ressuscité, et puis le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte qui viendra éclairer Saint-Pierre en profondeur et lui faire comprendre, en fait, lui permettre de relire finalement ces 3 années passées avec Jésus et lui permettre de comprendre vraiment ce qu'il est. Alors c'est le passage le plus long, hein, qui parle de Saint-Pierre dans tout l'évangile de Saint-Marc, donc c'est certainement la gloire de Saint-Pierre, mais ce qui nous permet aussi justement de confirmer le fait que saint Marc est sans doute le secrétaire de saint Pierre et qu'il porte justement la parole de saint Pierre, qu'il la retranscrit dans son évangile, parce que justement il n'y a que saint Pierre pour pouvoir afficher comme ça avec autant de franchise eh bien les défaillances du chef de l'Église, parce que là au moment où saint Marc écrit, on parle quand même de celui à qui le Christ a confié toute la destinée de l'Église. Donc, avec des chrétiens, pour être un peu effrayés quand même, de dire qu'il y a une erreur de casting, il faudra peut-être plutôt choisir Saint Jean. Mais voilà, c'est Saint Pierre qui lui-même, justement, pour montrer aussi la miséricorde du Seigneur, pour montrer aussi combien Dieu se sert d'instruments faibles, eh bien, c'est sans doute Saint Pierre qui n'a pas hésité dans sa prédication à montrer jusqu'où il était descendu pour dire finalement aux chrétiens n'ayez pas peur, voilà. Regardez-moi, je suis descendu tellement bas, le Seigneur Jésus est allé me chercher et il m'a confié cette mission d'être le pasteur de l'Église, donc vous-même, si vous péchez, soyez très confiants dans la miséricorde de Dieu. Je pense que c'est aussi le message qui passe aussi à travers cette franchise de Saint-Pierre qui n'hésite pas, à travers Saint-Marc, à présenter son péché dans toute son horreur. Et les larmes de Saint-Pierre sont d'ailleurs le dernier geste de Saint-Pierre dans l'évangile de Saint-Marc. Il y aura, après la résurrection, il y aura une annonce spéciale à Saint-Pierre, allez dire à Pierre et aux apôtres qu'il est ressuscité. Donc, il y aura une place spéciale pour Saint-Pierre dans les annonces de la résurrection, mais il n'empêche que Saint-Pierre, dans l'évangile de Saint-Marc, le dernier geste de Saint-Pierre, ce sont les larmes de Saint-Pierre. Ce sont à la fois des larmes de tristesse, sans doute de honte. On espère aussi des larmes de contrition. Ça n'apparaît pas chez Saint-Marc, ça apparaît plus chez Saint-Luc, où on dit que Pierre croise le regard de Jésus, et sans doute que dans ce regard du Christ, il ne dit pas que le reproche, il dit aussi l'amour que Jésus lui conserve. Cet amour que j'ai fait dire à Jésus devant Judas, « Mon ami, pourquoi es-tu ici ?» On peut penser que si Jésus avait dit à Judas « Mon ami » et qu'il l'accueille au jardin des Oliviers avec cette parole d'amitié, on peut penser que pareil, il a quand même dans ce regard vers Saint-Pierre un regard d'amitié qui doit l'encourager justement à l'espérance. Et d'ailleurs, Saint-Pierre n'ira pas se pendre, contrairement à Judas, donc on peut penser qu'il a trouvé quand même les ressources d'espérer et de ne pas désespérer, contrairement à Judas. Donc voilà, ce sont des larmes, donc sans doute de honte, de tristesse, de fatigue, je pense, je suis quand même assez épuisé après cette nuit terrible, et puis aussi des larmes de contrition, si on espère, des larmes d'espérance. C'est vrai qu'il y a 3 larmes sur le blason de la fraternité de Saint-Pierre, en hommage aux larmes de Saint-Pierre. Le blason de la fraternité de Saint-Pierre, c'est un fond bleu, des clés, des frontières, qui a trois larmes en hommage en souvenir du triple reniement et de ces larmes qui sont justement promesses de miséricorde. Après, on ne croise pas le blason de la façon de Saint-Pierre tous les jours. Donc c'est bien dommage, mais on ne croise pas tous les jours dans la rue. Donc, je pense que le fond bleu, c'est en hommage à la Sainte Vierge, je pense.
Oui.
Disons, voilà, ce qui est un peu propre, c'est justement les larmes, parce que bon, les clés, c'est comme symbole de Saint-Pierre, c'est très courant, mais les larmes, c'est un peu moins courant. Voilà. Puis après, bon, voilà, pour une fraternité sacerdotale, c'est aussi justement les larmes des pénitents qu'on console par le sacrement de l'absolution, ce sont les larmes qu'on verse nous-mêmes. Maman Marguerite, que je disais dans l'année dernière, commençait à célébrer la messe, c'est commencer à souffrir. Donc, c'est pas la maman de Saint-Pierre, c'est la maman Saint-Jean Bosco. Donc, il lui a dit, mon fils, maintenant tu commences à célébrer la messe, souviens-toi que célébrer la messe, c'est commencer à souffrir. Donc, voilà, c'est aussi les larmes du prêtre, donc les larmes qui suivent, les larmes qui le versent. Vous avez des questions sur ce chapitre 14 avant que nous lui disions au revoir. Puis c'était une épreuve un peu décisive justement pour qu'il se remette vraiment entre les mains de Dieu. Parce qu'on voit bien que Saint-Pierre, tout au long de l'évangile, si tous les autres se renient pas moi, allons-y, c'est lui qui prend les glaives, etc. C'est, voilà, quand le Christ annonce la passion, ah non, non, Seigneur, il ne t'arrivera pas. Donc voilà, il avait toujours du mal à se laisser mener, quoi. Et c'est vrai que là, le fait d'être vraiment par terre, une fois qu'on est par terre, c'est là qu'on accepte d'être sauvé, quoi. Et c'est vrai qu'il avait sans doute besoin d'expérimenter. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'a pas eu besoin de ça, mais la plupart des gens ont quand même besoin d'être malheureusement par terre pour pouvoir vraiment se dire, par moi-même, je n'y arriverai pas, et donc j'en appelle vraiment à Dieu. Parce que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle avait compris que le bon Dieu avait enlevé les pierres devant elle avant qu'elle tombe. Mais elle se sentait aussi fragile que ceux qui étaient tombés, même si elle n'était pas tombée. C'était une conscience très très fine, en fait, de sa condition de créature fragile, et qu'elle avait perçue, en fait, sans faire l'expérience de la chute. Enfin, si elle avait péché originel, mais apparemment elle n'avait pas commis de péché mortel. En tout cas, son directeur spirituel l'avait rassuré sur ce point, et donc sans même expérimenter des chutes lourdes et douloureuses, elle en avait quand même profondément la conscience de sa fragilité. Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans notre cas, dans le cas de Saint-Pierre, il faut ces chutes pour finalement lâcher prise, quoi. Et se reconnaître comme ayant un impérieux besoin d'être sauvé et de se confier à la miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, on verra, pas d'ailleurs, c'est pas dans l'évangile de Saint-Marc, mais lorsque Saint-Pierre est au bord du lac de Tibériade et que le Christ lui dit « Pierre, m'aimes-tu ?» Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Et que Saint-Pierre diminue petit à petit, et puis à la fin, il dit « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, donc sous-entendu, c'est vrai que je ne t'ai pas aimé suffisamment, que je t'ai renié, donc je me confie complètement en toi, c'est toi qui jugeras. » Et c'est justement devant ce bel acte d'humilité que le Christ dit « Sois le pasteur de mon troupeau, de mes brebis », parce que justement, Saint-Pierre est parvenu à ce point où Là, il ne sera pas le pasteur de ses brebis, mais il sera le pasteur des brebis du Christ, soit le pasteur de mes brebis. C'est toi qui as la charge de l'Église, mais comprends bien que ce n'est pas ton Église, que ce n'est pas toi qui donne le cap, c'est pas toi qui marche en tête, c'est d'abord le Christ qui marche en tête et Saint-Pierre le suit. Sinon, ce reniement, là, tout se joue. Entre le reniement, vendredi saint, le grand silence du samedi saint, qui a dû aussi beaucoup travailler, et ensuite, eh bien, voilà, cette joie de l'apparition du Christ, puisque Saint-Pierre sera gratifié d'une apparition spéciale du Christ.
Mais il est quand même là, Saint-Pierre.
Alors, non, en fait, apparemment, c'est pas le seul, puisque dans l'évangile de Saint-Jean, on nous dit qu'il est accompagné du disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire qui est sans doute Saint-Jean l'évangéliste, et que c'est Saint-Jean l'évangéliste qui, justement, a des entrées chez le grand prêtre, et qui permet de faire rentrer Saint-Pierre. Mais bon, ils sont là tous les deux, de fait.
Et puis, justement, elle le reconnaît, et il s'est quand même exposé un petit peu.
Ben oui, mais il s'est exposé. Non, mais il ne faut pas lui enlever ce courage qu'il a de suivre le Christ. Et effectivement, s'il le suit, c'est qu'il a cet amour, cet attachement au Christ, et il veut savoir ce qui va lui arriver. Donc ça, on ne peut pas lui enlever, effectivement. Il n'est pas parti se cacher au Cénacle, sous son aura, etc. Mais en même temps, c'est qui tout double, quoi. Parce que s'exposant, il s'expose aussi à le renier, quoi. En tout cas, Jésus lui avait déjà annoncé, après il aurait pu ne pas le renier, hein. Il était libre de ne pas le renier. On est toujours libre de dire oui ou de dire non, mais là, en l'occurrence, il a dit. Donc à la fois, c'est plus courageux de s'être exposé, et en même temps, la trahison est plus profonde que Saint Matthieu ou Saint Barthélemy, on ne sait pas trop où ils étaient, mais bon. Ils n'étaient pas aussi prêts, mais ils n'ont pas renié non plus. Il est 9h12. Vous voulez continuer sur Pilate ou... Pourquoi pas? On va continuer un tout petit peu sur Pilate. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau : Tu ne réponds rien, vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. Donc, comme on l'a dit, le coq a chanté, c'est le matin, le Sanhédrin peut se réunir, ce qu'il fait, ça ne dure sans doute pas très longtemps puisque tout a déjà été fixé dans la nuit, et donc on prononce en bonne et due forme la condamnation de Jésus, avec les anciens, les scribes et les grands prêtres, donc c'est-à-dire les trois catégories du grand conseil, donc ce qu'on appelle le Sanhédrin. Mais, comme vous le savez sans doute, les Juifs étant pays occupé par les Romains, ils n'ont pas pouvoir de vie et de mort. Donc il faut s'en remettre à l'autorité romaine. Alors, parfois, ça ne les dérangeait pas de passer outre. Saint-Étienne, il ne faut pas aller le traduire devant... le gouverneur, ils l'ont emmené, ils l'ont lapiné dans un coin, et puis on n'en parle plus. Donc là, il y avait des mœurs, et ça. Mais là, c'est quand même une personnalité dont on parle depuis 3 ans, dans toute la Terre Sainte, qui a drainé des foules nombreuses. Donc c'est très compliqué de le tuer, comme ça, dans un cachot. Et puis, sans doute que les grands prêtres veulent aussi... donner une certaine publicité, quand même aussi pour dire aux foules, mais vous voyez, voilà, il est bien mort et c'est Ponce Pilate qui l'a condamné et l'affaire est réglée. Donc ils le traduisent devant celui qui est, il y a plusieurs titres, hein, le procurateur ou le prêteur ou le préfet ou le gouverneur, en tout cas voilà, c'est Ponce Pilate. Alors vous remarquez que saint Marc ne précise pas qui est Pilate, hein, il dit juste et le livreur à Pilate, ce qui montre que voilà, tous les lecteurs de l'évangile situe très bien qui est ce personnage, qui effectivement a été pendant 10 ans procurateur, préfet de Rome en Palestine, en Judée, donc de 26 à 36. Alors, Flavius Joseph, qui est le grand historien du peuple juif, fait de lui un portrait plutôt négatif. Et Philon d'Alexandrie, qui est un juif qui a vécu grosso modo entre 20 avant la naissance du Christ et 45 après la naissance de Jésus, donc plus ou moins contemporain du Christ, fait aussi de lui un portrait très négatif. Donc plutôt brutal, etc. Mais ce n'est pas forcément contradictoire avec ce qu'on va voir, parce que c'est clair que Pilate ne veut pas être le jouet des Juifs. Et je pense qu'il a très bien compris, il sait qui est Jésus, il voit la faiblesse des accusations qu'on porte contre le Christ, et il voit très bien voilà, que le Sanhédrin veut se servir de lui pour faire condamner quelqu'un qui les gêne. Et en tant que Romain, quand même, fils d'un empire qui s'étend quasiment sur tout le monde connu, être le jouet de prêtres sadducéens au fin fond de l'Empire romain en Palestine, à Jérusalem, un peuple qui a perdu la guerre, une religion un peu ultra minoritaire de l'Empire romain, lui n'a pas tellement envie voilà, de rentrer dans la combine, il a quand même envie de montrer qui est le chef. Et c'est ce qui explique sans doute voilà, son peu d'empressement au départ, à condamner le Christ. Donc, Ponce Pilate, il est aussi, il faut le noter, hein, le grand marqueur historique de notre credo. Quand on prie le credo, quand on chante le credo le dimanche, eh bien, on dit que Jésus a été crucifié et qu'il a souffert sous Ponce Pilate. Donc, c'est important, c'est-à-dire que c'est le personnage historique qui est le marqueur, en fait, et qui nous rappelle, d'une certaine manière, la vérité de l'incarnation. C'est-à-dire, le Fils de Dieu ne s'est pas fait homme comme ça, de manière un peu éthérée, c'est pas un conte de fées, etc. Non. Le Fils de Dieu s'est fait homme, et il a souffert sous un personnage historique, dont l'existence est historiquement attesté par des pièces, par des inscriptions, donc là il n'y a aucune ambiguïté, aucune incertitude. Ponce Pilate a vraiment existé, il était vraiment procurateur de Judée au temps de Jésus, et donc voilà, il est le marqueur historique du credo qui voilà, commence dans la Sainte Trinité, qui se termine par la vision de la fin de l'histoire avec le jugement dernier, mais au milieu il y a cette mention de Ponce Pilate, un personnage païen, historique, connu par d'autres sources que la Bible, et qui vient nous rappeler voilà, que Jésus a vraiment vécu, qu'il est vraiment venu à un moment du temps, dans l'histoire, dans un lieu de l'espace, dans une culture, dans un peuple. Et c'est sans doute le païen dont les catholiques parlent le plus, en fait, je pense que c'est le nom du païen qui revient le plus souvent sur nos lèvres catholiques, parce que quand même, on le cite quand même tous les dimanches et à toutes les ancêtres. Quoi. Comme dit le pape Benoît XVI, il est vraisemblable que Pilate était désireux d'employer les deux grands moyens qui avaient servi à Rome pour asseoir sa domination sur le monde connu, à savoir la tolérance à l'égard des divinités étrangères et la force pacificatrice du droit romain. C'est-à-dire, voilà, quand Ponce Pilate, on lui soumet un cas religieux, sans doute que son premier réflexe c'est on va pas trop s'en mêler parce que les Romains n'était pas du tout, on va dire entre guillemets, à cheval sur les questions religieuses. Quand ils avaient conquis un peuple, ils ne détruisaient pas ses statues, ses temples, etc. Généralement, ils prenaient les dieux du peuple conquis et ils les faisaient rentrer dans leur panthéon. Parce que finalement, plus on a de dieux, je sais, parce que comme on ne sait jamais lequel est le bon, plus on en a dans le panthéon, plus on aura. Plus on assure ses arrières, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc plus on a de dieux, plus on est protégé. Et puis en plus, le fait de prendre chez soi les dieux des peuples vaincus, bah, ça veut dire qu'on a tout pris des peuples vaincus, qu'on les a vraiment asservis jusqu'au bout, qu'on a violé les femmes, on a pris les enfants, on a fait des hommes, des prisonniers, des esclaves, et on a même pris les dieux en quelque sorte en captivité. Donc voilà, les Romains, c'est plutôt la grande tolérance. Donc je pense que Ponce Pilate, au départ, n'est pas très très chaud pour rentrer dans ses affaires religieuses. Et puis, en revanche, il sait qu'il est dépositaire du droit romain, que c'est ce droit romain qui a fait en quelque sorte la paix romaine, qui a permis aussi la civilisation, et donc il ne veut pas expédier un procès. Donc il va rentrer dans cette affaire avec ces deux lumières de tolérance religieuse et force du droit romain. Et puis, comme le dit le pape Benoît XVI dans le livre de Jésus de Nazareth, sans doute que informé quand même de ce qui se passe à Jérusalem, peut-être pas de ce qui se passait tout en haut de la Galilée, mais informé de ce qui se passe à Jérusalem, de ce qui s'est passé les jours précédents, il s'est quand même renseigné et il sait que ce Jésus est sans doute à ses yeux un exalté religieux, mais en aucune manière un révolutionnaire politique qui serait dangereux pour l'Empire romain. Donc c'est aussi avec ces idées-là qu'il rentre dans le procès. Sans avoir sans doute de sympathie particulière pour Jésus, sans avoir clairement de sympathie pour les grands prêtres, et on est plutôt de l'antipathie, il va écouter ce qu'on a à lui dire, et puis il tranchera ensuite. Et évidemment, en face, on va vouloir en revanche présenter les choses de la manière la plus adéquate pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire la condamnation à mort de Jésus. Donc plutôt que de dire « celui-ci se présente comme le Messie », Ponce Pilate, ça lui aurait pas remué la toge, ils vont évidemment jouer sur le fait, comme on disait tout à l'heure, que le Messie devait assumer une fonction politique, qu'il devait prendre la tête du peuple d'Israël, qu'il était le descendant de David, donc le descendant de la lignée royale. Et donc, ils vont présenter comme « il s'est dit le roi des Juifs ». Mais, en zappant quelques préliminaires, c'est-à-dire « il s'est dit le Messie, et pour nous, le Messie est le roi des Juifs », non, ils ne se présentent pas comme ça, parce que, évidemment, ça fragiliserait un peu l'argumentation. Il s'est présenté comme le roi des Juifs. Et donc, le procès devant Anne et Caïphe, c'était un procès quand même sur est-ce que Jésus est le Messie, et le procès devant Pilate, ça va plutôt être est-ce que Jésus est roi. Mais avec ces deux titres étant liés l'un à l'autre. Est-ce que vous avez des questions? Alors il y a des romans qui disent que Ponce Pilate s'est converti. Je pense qu'il y a même un évangile apocryphe, peut-être même, qui dirait qu'il s'est converti. Mais ça, il faudrait que je vérifie. Donc un évangile apocryphe, c'est un évangile qui n'est pas reconnu par l'Église comme étant inspiré par Dieu, qui est souvent teinté d'erreurs doctrinales, de merveilleux un peu loufoques, mais où il y a aussi des choses sans doute vraies. Alors, il faut que je recherche pendant 15 jours, parce que je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que dans un apocryphe, on parle de...
La femme de Ponce Pilate, elle a mis en garde.
Voilà, effectivement, la femme de Ponce Pilate, je ne sais plus dans quel évangile c'est, elle a fait elle vient voir son mari, et elle lui dit, surtout, n'aie pas d'histoire avec cet homme, parce que j'ai été beaucoup troublée dans mon sommeil à cause de lui. Mais, sous-entendu... pense, relâche-le. Enfin, c'est pas ce que pense Paul. Enfin. Non, là c'est plutôt le contraire. Hein. C'est plutôt un personnage positif qui viendrait plutôt à dire à Ponce Pilate de faire attention.
Il
s'est imposé là, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr, ouais. Oui. Ça va être là ? Très bien. Alors, nous poursuivons donc dans deux semaines, le 20 février. Et donc, nous continuerons avec ce face-à-face entre Jésus et Pilate. Ce terrible parallèle entre Barabbas et Jésus. Barabbas, tu veux dire ? Bar.
Barba.
Fils. Abba.
Père.
Fils du père. Terrible, hein ? D'un côté, vous avez le fils du père avec un grand F et un grand P, et de l'autre côté, vous avez.
Bah,
c'est un prénom usuel, hein, mais il n'y a pas que lui qui portait son nom, mais c'est tragique quand même.
Ah, oui,
c'est
une signification.
Ouais. Ah, oui. Ouais. Donc, il vit.